rendez-vous avec Jonas Schneider.
Nous avons toutes et tous des premiers rendez-vous marquants et nous en provoquons tous les après-midi sur la première. Notre premier invité, psychiatre, est l'un des premiers à parler du burn-out dans la région. Une trentaine d'années après que l'homme a marché sur la Lune, il part marcher sur les dunes à la recherche de l'homme, précisément. Un voyage avec un groupe d'hommes partis afin d'explorer leur masculinité en difficulté. Il en sortira un film, Le souffle du désert, qui fait largement parler de lui au début des années 2000. Depuis, il y a eu d'autres voyages et de nombreux autres dialogues entre hommes. Un livre qui est consacré vient de sortir, Le défi masculin. Un constat, le modèle du macho est une impasse, mais il ne sert à rien de jeter avec tous les traits de la masculinité. Pour ce faire, il a parcouru le monde, les croyances, les formes de méditation et tout ce qui aide l'humain à trouver son équilibre tant recherché. L'histoire d'un homme qui a appris à aller ailleurs pour voyager en lui et qui cite volontiers le scientifique français Théodore Monod, « Jamais je n'ai été aussi bien moi-même que lors de longs voyages que j'ai fait seul à pied. » Notre autre invité se tenait parmi les cancres à l'école. Ouvrier, apprenti, avant de devenir un banquier très en vue, il a connu les échelons que l'on grimpe petit à petit, avec une certaine impatience tout de même. À la fin des années 80, il est encore jeune homme, mais il a déjà tout du self-made man, consacré par la finance internationale. Courtage, fortune, immobilier et diverses prises de risques qui payent. Notre invité, devenu entre-temps papa, entend un jour un jeune type qui fait la cour à sa fille en lui jouant de la guitare. Ce chenapan à la tronche d'un ange et un nom qui n'attend plus qu'un pseudo pour rentrer dans toutes les têtes romandes. Ce sera Bastian Baker. Notre invité sera son premier producteur. Et grâce à son poulain chanteur, il ne sera plus uniquement le promoteur, le financier, mais il deviendra une personnalité romande, de la visibilité qui donne une certaine responsabilité de prêcher la bonne parole. C'est notamment ce qu'il fait au sein de l'Académie de Business qu'il a créée. Le premier Alexis Burger, l'autre Patrick Delarive. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier rendez-vous.
Bonjour à vous deux, bonjour Patrick, bienvenue.
Bonjour Jonas.
Bonjour Alexis, bienvenue bonjour. À vous aussi. Ou bonjour docteur, vous préférez ?
Non, Alexis, ça va.
Très bien. La première question est pour vous alors, Alexis Burger. Un premier rendez-vous qui vous a marqué, s'il vous plaît.
Voilà, ça, la question qui tue. Je me suis rappelé à cette question, je me suis rappelé un rendez-vous que j'avais eu quand j'avais 13 ans, dans le quartier, c'était là autour. C'était dans le vieux Chuve, à l'époque où le Chuve était de l'autre côté de la route du Bugnon, et où je jouais avec des copains, et on entrait par les portes, et on explorait un peu ces couloirs, c'était beaucoup moins surveillé que maintenant, et on s'est retrouvé tout à coup dans un laboratoire où il y avait les microscopes électroniques, et on s'est trouvé très bête devant ces scientifiques qui nous ont dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Et puis ils nous ont donné un rendez-vous pour visiter leur labo. Ils n'ont absolument pas été rejetants, et on est allé visiter ce labo avec des microscopes électroniques qui étaient grands, 2 mètres de haut, des monstres, des machines fantastiques qui permettaient de regarder le très 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 petit. Ils nous ont montré comment ils faisaient les préparations. Et j'avais trouvé ça fantastique. Ça m'a complètement marqué. Et c'était un des éléments de la motivation pour laquelle j'ai fait la médecine. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et la simplicité avec laquelle ça s'était passé, comme ça, des enfants qui jouent. Et puis voilà. C'est un des premiers rendez-vous sympas.
C'est l'ancêtre de la journée Oser tous les métiers qui est aujourd'hui en fait pour les enfants romands, c'est ça ?
Exactement.
Vous avez inventé totalement la journée Oser tous les métiers, Alexis.
Spontanément.
Patrick Delarive, vous, un premier rendez-vous marquant ?
Ah, c'est difficile de parler d'un rendez-vous en plus de 55 ans de vie. Moi, j'ai énormément de rendez-vous qui me marquent. Pour moi, la vie professionnelle, c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est de la gestion d'emmerde fondamentalement au quotidien. On est payé en fonction de ses emmerdes. Généralement, plus on a d'emmerdes, plus on est payé. Ou alors, il y a quelque chose qui va vraiment pas dans l'énergie. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup parallèlement à cette gestion d'emmerdes, c'est les rencontres. Et en fait, les rencontres empreintes de curiosité. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, je rentre dans l'univers de l'autre. Je l'écoute pas, je l'entends, je m'intéresse à la personne. Ça crée d'abord une énergie qui est agréable. Et puis, ça permet de découvrir l'univers de l'autre. Ça permet de découvrir des passions, ses intérêts. Ça permet éventuellement de découvrir une passion pour soi. Et puis, s'il y a ni intérêt ni passion dans le moment présent, il y aura peut-être une opportunité qui pourra déboucher sur autre chose. Donc, j'ai énormément de rencontres.
Ça, c'est la théorie. Maintenant, la pratique.
Non,
Patrick.
J'ai des rencontres qui m'ont amené dans des endroits juste incroyables. S'il y en a une qui me vient à l'esprit là maintenant spontanément, c'était il y a 25 ans, je débutais mes activités dans le courtage financier et je rêvais de pouvoir rentrer chez Crédit Suisse. Et je fixe un rendez-vous par téléx ou par fax. Le mail n'existait pas encore avec un responsable du type de produits financiers que je traitais au Crédit Suisse Zurich. Je confirme une fois, deux fois et la veille. Puis je me retrouve à Zurich dans la plus grande salle de trading d'Europe qui comptait 2500 personnes dans une pièce. Et la personne avec qui j'avais rendez-vous n'était pas là. Et en fait, j'ai décidé d'attendre patiemment, Et puis tous les quarts d'heure, je m'étais fixé tous les quarts d'heure, pendant une heure et demie, tous les quarts d'heure, je me relevais vers cette petite réception qui était là, dans cette énorme salle. Et puis, à un moment donné, au bout de la 4e ou 5e fois, j'ai élevé un peu le ton et là passait quelqu'un. Et cette personne m'a dit, est-ce que je peux vous aider? Un gars de mon âge, hein, il y a 20 ans, qui avait 35 ans. Et il me dit, venez avec moi. Il me demande de m'asseoir dans une petite salle vitrée. Il me demande de lui expliquer pourquoi je suis là. Et puis il me dit, j'aime bien votre discours, on va faire des affaires ensemble. Et je lui ai dit, moi je me suis présenté, mais vous êtes qui? Puis il m'a dit, je suis le boss. Et en fait, ça a été un point important pour moi, un point important dans ma carrière.
Ce qu'il a apprécié, c'est votre détermination qu'il a découverte en fait à la réception de son établissement.
Vous savez, je pense qu'il y a la synchronicité, il y a des choses qui doivent arriver. Et puis quand on respecte certaines séquences, ben il y a des choses qui se passent et c'est ce que j'appelle une belle rencontre.
Vous allez faire connaissance l'un avec l'autre, Alexis Burger, Patrick Delarive, avec le speed dating. On commence avec Patrick Delarive qui pose des questions au docteur Alexis Burger. Vous avez 2 minutes pour récolter un maximum d'informations sur le psychiatre, quand vous voulez.
Alors Alexis, vous êtes psychiatre. Oui. Est-ce qu'on fait toujours un métier par hasard?
Ah non, je crois pas. Enfin, on peut dire ça, mais en fait, si on fait psychiatre, c'est parce qu'on est concerné par la recherche intérieure et qu'on aimerait bien, entre autres, résoudre ses propres problèmes.
Est-ce que ça fonctionne?
Ça fonctionne assez bien si on garde cet objectif en tête, oui.
Et dans ce métier de psychiatre, qu'est-ce qui est le plus difficile? Comment est-ce qu'on gère ce flux d'émotions, ce flux de problèmes? Parce que quand les gens viennent chez un psy, ils ont une problématique à régler, ils sont à la recherche d'une solution par rapport à un problème. Comment est-ce qu'on gère cette séparation entre une énorme intimité qui est transmise au thérapeute et puis les propres émotions que le thérapeute peut ressentir?
Ouais, ben je crois que si on a la réponse à cette question, on peut faire le métier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut on peut pas répondre à cette question juste par une phrase. C'est vraiment ce qu'il s'agit d'apprendre. Ce qu'il s'agit d'apprendre, c'est à créer en soi une ressource qui fait qu'on distingue ce qui tient du professionnel et ce qui tient du privé. Et si on construit pas cette chose-là en soi, parce que c'est pas donné, eh ben, on finit en burn-out. Et vous voyez, c'est un petit peu comme l'être humain, il est fait pour aider. Si par exemple nos enfants se blessent, on les aide. Si quelqu'un tombe dans la rue, on l'aide. Mais l'être humain, il est pas fait pour aider de 8h du matin à 8h du soir. Si on aide de 8h du matin à 8h du soir, on devient juste fou. On supporte plus la souffrance, on supporte plus les problèmes et on trouve un moyen pour y échapper. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour aider les gens avec qui on a un lien ou dans une certaine dose. Donc si on veut faire un métier comme ça, on est obligé de construire une espèce de dispositif interne. On est obligé de construire des façons de choisir à l'intérieur de soi pour pouvoir rester disponible sans s'épuiser. Mais c'est ça le métier, c'est pas la théorie psychanalytique ou la théorie ceci ou la théorie Gestalt, ça c'est facile ça. Ce qui est difficile, c'est effectivement de constituer en soi cette capacité de distinguer ce qui tient du boulot et ce qui tient de notre propre sensibilité.
On est au terme des 2 minutes, vous voyez, c'est ça avec un psychiatre, vous posez une question, pas vite les 2 minutes.
C'est ça, surtout que c'est des questions complexes.
Oui. On peut recommencer?
Ben non, mais du coup j'ai une question pour vous Patrick Delarive sur Alexis Burger. Au tout début des années 80, Alexis se forme au Rebirth. Mais qu'est-ce que c'est le Rebirth?
La renaissance. La renaissance.
Oui, mais encore.
La renaissance, est-ce que c'est une thérapie qui peut être avec certaines méthodes comme la dynamique mentale, comme l'hypnose, permet de revivre sa naissance.
C'est assez chaud.
Permet de revivre sa naissance.
On voit qu'il est passionné.
C'est une régression.
On voit qu'il en a payé du psychiatre.
Hein. Encore plus chaud, là. On arrive.
C'est une régression. On va revivre sa naissance.
On va revivre sa naissance. Mais c'est pas avec l'hypnose tellement. C'est avec la respiration qu'on travaille.
Donc, une forme de méditation.
Non. C'est vraiment une technique respiratoire qui joue sur l'hyperventilation et qui permet d'induire des états altérés de conscience sans qu'il y ait vraiment d'hypnose. Il suffit d'utiliser la technique.
On essaye?
Non, on peut pas essayer ça.
Mais quel est l'intérêt de revivre sa naissance?
Ben, c'est notamment de comprendre ce qui, dans ce vécu-là, a influencé notre vie. Et si, par exemple, on a toujours de la peine dans certaines circonstances, on a toujours de la peine à aboutir, on a toujours de la peine à réaliser des choses, et qu'on arrive à relier ça avec notre vécu de naissance, le fait de le voir aussi clairement va nous libérer.
Est-ce qu'on parle du vécu de naissance ou aussi du vécu antérieur à la naissance?
Non, c'est du vécu de naissance et du vécu postérieur, en l'occurrence. Effectivement, on a appelé ça rebirth parce que ça menait beaucoup de gens à revivre leur naissance, mais l'essentiel des choses intéressantes sur le plan thérapeutique, c'était de revivre peu importe quoi a été réactivé par cette technique. Mmh. Et pour que ça marche, il faut le faire avec quelqu'un avec qui on a une grande confiance, avec qui il y a une intimité qui est respectueuse, une éthique professionnelle. Et c'est aussi ça qui a fait un peu disparaître cette technique du marché, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'elle était faite un peu à la sauvage, comme beaucoup de thérapies dans les années 70-80, et puis elle n'était pas toujours faite dans un respect éthique correct, et finalement ça a disparu.
Mmh. Mais on inverse
c'est une technique fantastique.
On inverse les rôles, c'est le psychiatre qui va vous questionner, Patrick Delarive, vous avez 2 minutes Alexis, quand vous voulez.
Alors moi j'ai une question, comment on fait quand on a beaucoup d'argent pour rester naturel?
Qu'est-ce que c'est beaucoup d'argent?
C'est quoi la richesse? Justement, ça on peut discuter ce que c'est la richesse, mais quand on a beaucoup d'argent, ce qui veut pas encore dire l'abondance, mais ce qui veut dire beaucoup d'argent, comment on fait pour rester naturel avec des gens qui le savent autour de vous?
Je peux pas vous le dire parce que pour moi l'argent n'est pas la possession de l'argent. Alors j'en ai gagné beaucoup. Mais l'argent que je gagne, en très très grande partie, c'est de l'argent que je fais circuler, que je réinvestis, que je mets dans le système. Mais pas forcément, pas uniquement dans un but financier d'avoir le meilleur retour possible. J'ai vu autour de moi tellement de gens malheureux, de par la possession de l'argent, la transmission de cet argent, le changement d'attitude par rapport à l'argent, Je fais tout pour éviter cette situation. Donc moi, pour moi, l'argent c'est une énergie. La possession de l'argent c'est un étang stagnant qui pue, où il y a des moustiques, où il y a des grenouilles et tout un tas de trucs pas très agréables. Et la circulation de l'argent c'est un torrent qui coule avec tout un tas de choses. Alors d'avoir de l'argent donne une facilité pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses.
Oui.
Donne aussi la possibilité de pouvoir se tromper, donne la possibilité de pouvoir aider des gens. Ou de lancer différents projets sans s'attendre à un retour immédiat, ça donne cette liberté là. Mais la possession de l'argent, je peux pas vous dire quel est le sentiment que ça donne de posséder de l'argent, même si de loin je suis pas à plaindre, parce que pour moi c'est quelque chose qui doit absolument circuler. Et je trouve que la possession de l'argent gagné trop vite, l'argent mis en évidence, l'argent show-off change tellement les gens, change tellement les relations.
Change comment les gens s'adressent à vous.
Oui, exactement, tout à fait. Donc voilà, j'explique mon côté naturel, mon côté normal, par le fait que pour moi, ça n'a absolument aucune importance. Je voudrais mourir nu, c'est-à-dire je voudrais mourir sans argent, en ayant transmis mes connaissances, en ayant transmis mes expériences. Et quand on parle d'argent, on lit ça aussi au succès. Alors mes succès, ils sont visibles dans l'immobilier parce qu'il y a des immeubles, avec Bastien parce qu'il a du succès et d'autres projets que j'ai montés. Mais pour cette dizaine d'affaires qui ont vraiment bien fonctionné, il y en a eu des dizaines qui n'ont pas fonctionné.
On est au terme des 2 minutes, Patrick Delarive. J'ai donc une question pour vous sur Patrick, Alexis Burger. Patrick Delarive estime qu'il s'est réveillé 2 fois dans sa vie. À quelles occasions, selon vous?
Ou alors, ça doit être en rapport avec des histoires d'amour, ça.
Ah oui, ça pourrait.
Ça pourrait, non?
Est-ce que ça a un rapport avec l'amour, Patrick?
Tout a un rapport avec l'amour, donc
c'est pas directement. Non, pas l'amour au sens dans lequel on entend.
Si vous l'avez dit, c'est dans une interview chez 24 heures. Mais vu que c'est pris hors contexte, je fais pas le lien parce que je dis beaucoup de choses. Parfois, je dis des conneries aussi. Donc, c'en est petit truc.
Bon, je vais vous aider alors parce que si même vous savez pas, on va pas demander à Alexis Bourguer de deviner ce que c'est. La première, ce serait à 16 ans, vous travaillez comme ouvrier dans une usine de pneus et vous vous dites c'est pas du tout ce que je veux faire. Il faut tout que je reprenne depuis le début.
Absolument.
Et la seconde fois, c'est quand vous commencez à voler. Pas voler dans les banques, voler quand vous volez en avion.
Oui. Il faut que je m'exprime sur ça ou
non,
est-ce qu'Alexis doit
confirmer ce que je viens de dire, je sais pas.
Moi, je confirme,
oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est pas moi qui ai trouvé, mais ça fait rien.
Non, effectivement, j'ai à 15 ans et demi, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école pour parce que je ne voulais que travailler, parce que je trouvais une reconnaissance dans le travail que je faisais déjà auparavant, durant toutes mes vacances, durant tous mes week-ends, à partir de l'âge auquel j'ai pu travailler, peut-être même avant. Et je trouvais une reconnaissance que j'avais pas à l'école parce que j'étais le mauvais à l'école. Et quand on est en échec scolaire, on est un boulet pour les profs, pour les copains, pour les parents. C'est très lourd, c'est très lourd. Et je trouvais une reconnaissance dans le travail. Donc je voulais absolument travailler à force d'insister. Mes parents, désespérés de cause, à force de redoubler, parce que j'avais 16 ans, mais...
Ils ont redoublé 3 fois.
Mais j'avais 16 ans, mais mes copains avaient 12 ans, donc je connaissais tout le monde. Mais c'était le début de mes réseaux. Mais c'est effectivement là, j'ai été travailler dans une usine à faire du rechapage de pneus. Et j'ai travaillé dans cette usine à Vevey pendant quelques mois. J'avais beaucoup de plaisir. Je gagnais quelques centaines de francs par mois à cet âge-là. Et à cette époque-là, c'était beaucoup. J'étais avec des gens plus âgés, donc ça m'apportait aussi beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait... Que je me serais vraisemblablement lassé de ça, et j'ai décidé de faire un apprentissage.
Vous êtes éveillé à ce moment-là.
Je me suis réveillé.
Alexis Burger, on aura l'occasion d'en reparler puisque votre livre finalement trace l'ensemble de vos activités depuis plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire le travail sur la masculinité de vos patients ou de vos, je sais pas si on peut les appeler les patients, ceux que vous avez emmenés dans le désert.
Non, ceux qui sont venus dans le désert, c'est pas des patients.
Des clients.
Des clients plutôt, oui. Mais le premier qui était concerné par ce travail, c'était moi. C'est-à-dire que, comme on disait au début de l'émission, on ne fait pas ces métiers par hasard. Et puis, dans ma carrière de psychothérapeute, il y a eu des moments où je me suis intéressé à certains thèmes qui correspondaient aussi à des moments où j'étais concerné à titre personnel par ces thèmes. Ça pouvait être la sexualité à certains moments, ça pouvait être les filiations. Et puis, ça a été, depuis les années 90, ça a été ce thème de la masculinité sur lequel je me cassais bien les dents personnellement. Et je suis tombé sur des groupes d'hommes qui travaillaient avec différentes techniques et différentes approches dont on peut parler. Mais la propriété de ces groupes d'hommes, c'était d'abord qu'il y avait des hommes, et puis qu'on mettait tout sur la table, les problèmes d'hommes qu'on pouvait avoir. Et ça, c'était vraiment une révolution pour moi. Parce que d'abord, dans mon milieu, les hommes, c'était des gens chouettes, mais c'était pas des gens qui partageaient leur intimité, c'était des gens qui partageaient des activités entre hommes. Et puis, ce qui m'a beaucoup secoué, c'est que après toutes les psychothérapies que j'ai faites au cours de ma formation, j'ai réalisé que dans ces groupes hommes, je touchais des points que j'avais jamais touchés dans les thérapies, des choses vraiment très simples. Et ça m'a passionné, complètement passionné. Donc, je me suis intéressé à ces groupes hommes. J'ai participé à toutes sortes de groupes hommes dans plusieurs pays. Et puis ensuite, il y a eu cette aventure de ce film dont vous avez parlé, Le Souffle du désert, où quelqu'un m'a proposé d'animer un groupe homme pour que François Coller puisse faire un film là-dessus. Mmh. Ça a donné Le Souffle du désert. C'était toute une aventure. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et c'était fantastique. Et moi, j'aimais beaucoup le désert. J'aimais beaucoup les groupes hommes. C'était la première fois que j'animais un groupe homme dans le désert. Depuis, j'en ai refait chaque année. Donc, depuis 2004, je pars chaque année avec des groupes. Et on va aussi avec des groupes mixtes, mais notamment avec des groupes hommes. Et dans les groupes hommes, il se passe des choses tellement spéciales et tellement efficaces sur le plan du changement et sur le plan de la réalisation des objectifs qui amènent les gens à faire ça, que je me suis dit, il faut que j'écrive ça, quoi. Je vais pas garder tous ces témoignages quelque part dans ma mémoire.
Manifestement, ça fonctionne. Alors, le livre sort cette semaine. Patrick Delarive, lisez le 4e de couverture de l'exemplaire qu'on a dans ce studio. Et à voir, ça vous parle, vous aussi, hein.
Ah, je trouve que c'est un sujet tellement, tellement d'actualité, quoi. Je veux dire, l'homme n'est plus homme, la femme n'est plus femme. Il y a un amalgame entre l'égalité et la différenciation. L'égalité, bien sûr, qu'elle doit exister. Et je me rappelle au début de ma carrière dans la banque, 1979-1980, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire seule, elle pouvait pas avoir une carte de crédit, le mari pouvait bloquer le compte de sa femme.
Il fallait la signature du mari.
Donc, l'égalité, oui, mais la différenciation, non. Il faut accepter qu'on est différent, qu'on a un chromosome on a un chromosome qui nous sépare. Donc, si on simplifie, nous, ici, autour de cette table, on est 51% hommes, et s'il y avait la même table avec des femmes, elle serait 49%, elle serait 51% femme, et inversement. Donc,
mais c'est une thématique qui vous a travaillé. Vous avez été mal à l'aise, vous, avec votre masculinité, Patrick Delarive?
Non, j'ai pas été mal à l'aise par rapport à ça, mais je me suis retrouvé dans certaines situations en disant que, mal à l'aise, non. mais j'ai constaté que mon intelligence, et sans prétention, parce que vous savez comme je suis, mais que mon intelligence émotionnelle, que ma sensibilité sont plutôt des caractéristiques de type féminine. Alors ça va faire bondir certaines personnes, bien entendu, mais
je sais pas, on écoutera le psychiatre sur cette question après.
Mais des caractéristiques plutôt féminines. Et bien sûr que lorsque dans une relation de couple, ces caractéristiques sont peut-être trop évidentes, alors elles sont certes confortables, mais la position de l'homme dans le couple, le rôle de l'homme dans le couple disparaît un tout petit peu face à cette féminité. Et on le voit du reste, on voit que, moi, en observant les couples, on voit que par exemple les hommes qui rentrent à 5h de l'après-midi pour passer l'aspirateur, qui font leur corvée repassage et qui portent leurs enfants en bandoulière sur le thorax, bah leurs femmes sont enchantées d'avoir cette aide, mais elles perdent souvent l'image de l'homme
on écoutera le docteur avec ses différentes caractéristiques.
Il a des choses à dire.
Oui, je suis sûr qu'il a plein de choses à dire. D'abord, on va écouter un jeune gars que vous avez produit, on l'a dit en vous présentant, Sébastien Becker. On écoute un extrait de son dernier single, c'est le futur 4e album. C'est juste ça, monsieur le producteur.
On construit l'album avec des singles qui sortent.
Alors
qui
voici. Sortent Donc c'est Five Fingers sur la première.
I met you at an age when we were certain that playing games behind the curtains was everything we'd ever need to know. Never heard of jealousy. What's good for you is good for me. The five fingers of my hand with me until the end. You'll never walk alone. We're one for all. When we cruise together, people call it rock and roll. I'd fight for you if you were right or wrong. I know together we are stronger. The highway of our life goes on and on. The road is paved in gold. Let's be together until we're old. The five fingers of my hand with me until the end. You'll never When we cruise together, people call it rock and roll. If I ever have to sing this song on a rainy day when you are gone, when you will be sure, I'll make sure. Well, be sure, I'll make sure. Please be sure, I'll make sure. The shout at ease.
Sébastien Becker sur la première pour illustrer ce premier rendez-vous entre Alexis Burger, l'auteur du Défi masculin, notamment psychiatre, et puis Patrick Delarive, l'homme d'affaires. Alors j'ai envie de vous faire réagir, Alexis, puisque dans votre premier rendez-vous, Patrick Delarive a l'air particulièrement concerné par ce que vous racontiez tout à l'heure. Ce qu'il disait, c'est-à-dire l'idée que la partie masculine du couple devrait pas forcément être attentive aux émotions, devrait être plus empreinte d'agressivité que d'écoute. Ça, évidemment, c'est les clichés auxquels vous êtes confronté, Alexis.
Bah oui, beaucoup. Mais chacun a sa vision, donc et puis chacun voit les impasses dans lesquelles on est arrivé. Il me semble qu'il y a une chose qui se passe actuellement, c'est que on a une très grande liberté de faire un peu tout ce qu'on veut. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des préjugés, il y a des pressions familiales et tout, mais quand même, si on regarde historiquement, il y a une foule de choses qu'on ne pouvait pas faire qu'on peut faire maintenant. Et Patrick disait tout à l'heure que à l'époque dans la banque pour qu'une femme puisse ouvrir un compte, elle devait avoir la signature du mari. Ben ça, ce genre de choses, ça a complètement changé. Les femmes peuvent travailler, elles peuvent ouvrir des comptes, elles peuvent faire de l'argent, elles peuvent conduire une voiture, elles peuvent changer un pneu, etc. Les hommes peuvent porter les bébés, peuvent les langer, peuvent faire à manger. Toutes ces choses-là cessent d'être connotées masculin ou féminin. C'est quelque chose comme si les rôles, les comportements sociaux cessaient d'être systématiquement associés soit au masculin, soit au féminin. Donc on a une foule de comportements qui dans le passé étaient connotés, parce qu'à l'époque, la voiture c'était l'homme qui conduisait, porter le bébé c'était la femme, etc., etc. Et quand l'homme cuisinait à la maison, on le regardait un peu de travers en se disant « qui c'est qui porte la culotte chez celui-là ?» Enfin, il y avait des préjugés tout de suite. Maintenant, il y a de moins en moins de préjugés quand une femme est au volant, enfin, alors que c'était systématique à une certaine époque. Donc les rôles sociaux cessent d'être masculin ou féminin. Ce qui est bien d'un côté, parce que ça laisse les gens beaucoup plus libres, c'était lourd quand même, il faut le dire. Mais ce qui nous met dans une certaine confusion, parce qu'on se dit alors, ben, finalement, alors c'est quoi être un homme ou être une femme? Alors les femmes, elles y sont prises beaucoup plus vite que les hommes. Le féminisme date des années 60-70, il y a 2 générations qui se sont passées, bientôt 3. Les hommes, c'est plutôt maintenant qu'ils se posent ces questions. Alors effectivement, moi, quand j'ai commencé ma médecine, il y avait 10 femmes et puis 200 hommes. Et c'était le cas dans beaucoup, beaucoup de domaines. Maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans l'enseignement, pareil. Dans la santé, c'est généralisé, etc., etc. Donc, finalement, qu'est-ce qui nous reste aux hommes? Le problème, c'est qu'on s'est défini par rapport au genre. Il y a beaucoup d'hommes pour qui le fait de faire de l'argent, le fait d'assumer ses responsabilités domestiques, ben, ça suffisait pour être homme. Maintenant, ça suffit plus. C'est des choses qui sont ni masculines ni féminines de nos jours. Donc, on est un petit peu avec cette perplexité. Qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes? Alors, moi, ce que je trouve fantastique dans cette histoire-là, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, on parle des gender fluides, qui est ce nouveau trend qui arrive et puis qui va faire une vague.
Qu'est-ce que c'est alors un gender fluide?
Alors, c'est des gens qui se permettent soit d'être homme, soit d'être femme, sans être forcément connoté homosexuel, mais en pouvant être aussi homo ou bisexuel, mais pas forcément. Simplement.
Donc, on dit abolissons les genres.
Abolissons les genres et jouons.
Avant d'être une femme ou un homme.
Voilà. Et jouons avec tous les possibles. Ce qui est fantastique. Moi, j'ai eu une expérience un peu de ce genre-là dans les années, fin des années 60, début des années 70, où la mode, c'était rejeter la guerre, c'était dans les longs cheveux, des bijoux, chez les hommes, d'être tendre, de se toucher, ce qui était magnifique. Ça a donné lieu à 1000 expériences de créativité. Mais quand il s'agissait d'abord de vie sexuelle, c'était une vraie catastrophe. Absolument la catastrophe. Et quand il s'agissait de tenir dans des confrontations, tenir dans des épreuves, c'était aussi la catastrophe. Et les femmes qui adoraient ces hommes doux, etc., au bout de quelques mois, elles disaient « j'aimerais bien quand même quelqu'un qui soit pas comme mon doudou, quelqu'un qui a un petit peu des couilles, quoi. » Et puis toute l'histoire s'est cassée la figure.
Là, vous reveniez ce que nous racontait Patrick Delarive tout à l'heure.
Et vrai, on revient au fait qu'il suffit pas de tout permettre pour gommer les différences.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu scandaleux? Les femmes se sont battues pour l'égalité, on y arrive gentiment petit à petit, on n'y est pas encore tout à fait, et l'homme se pose en victime en disant « non mais c'est la catastrophe, donc à l'égalité je suis perdu, je ne sais plus tellement où aller,
etc. » Il aurait bien tort de se poser en victime, c'est fantastique la liberté qu'il a, et c'est entre autres grâce au féminisme que l'homme a autant de liberté. Donc on n'est vraiment pas des victimes dans cette histoire-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent en victime, et il y a de nouveau une tendance comme ça avec la victoire du nationalisme et du machisme, etc., chez les hommes politiques. Etc. Il y a une tendance comme ça à dire oh ouais, les femmes nous exploitent, mais c'est n'importe quoi ça. Elles nous exploitent pas du tout, on fait ce qu'on veut. Si on a envie d'être homme avec des signes extérieurs, avec ben on peut. Puis si on a envie d'être plutôt doux, plutôt féminin, on peut aussi. Plus personne nous empêche de faire ça. Ce qui est confrontant pour les hommes, c'est que la question nous est posée: qu'est-ce que tu veux comme homme? C'est ça qui nous est posé comme question. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux être comme homme? Et effectivement, si on a une généralisation des comportements dans le sens que les comportements ne sont plus ni mâles ni femelles, Alors, où est-ce qu'elle est, cette polarité entre les hommes et puis les femmes qui fait qu'on se désire? Vous voyez? Le désir, il passe par où? Il passe par la polarité. Qu'il y ait une polarité entre hommes et entre les hommes et les femmes, qu'il y ait une tension entre ces pôles. Et c'est possible. On peut à la fois conduire sa voiture et faire à manger en tant qu'homme et puis pas vivre ça comme étant sexuellement connoté. Et en même temps, quand on est dans la relation de couple, se poser avec son énergie et puis attendre de la femme qu'elle se pose aussi avec son énergie.
Patrick Delary, vous évoluez dans un milieu qui est vu régulièrement comme sexiste. Les top managers, le milieu des affaires, les hommes d'affaires, c'est encore un terme qui est consacré, hein, hommes d'affaires.
Ouais,
est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de changer? C'est ce que nous disait un peu Alexis Burger, ou on est encore bien conservateur dans ce milieu-là?
Je pense que dans le milieu professionnel, effectivement, il y a une égalité qui n'est malheureusement pas encore atteinte. On le voit dans les différences de salaire qu'il y a pour des fonctions égales hommes-femmes dans les entreprises.
Mais ça, c'est encore plus vrai dans votre milieu.
Maintenant, je pense que les choses changent beaucoup avec l'évolution, avec les générations qui sont déjà actives dans le monde du travail. Quand il y a cette génération Y, les 23, 22, 32 ans aujourd'hui qui sont dans le monde du travail, permettent de changer beaucoup les choses. L'homme fonctionnait beaucoup plus de manière statutaire jusqu'à maintenant, alors que la femme était beaucoup plus orientée sur l'exemplarité. Mais dans l'entreprise, ça suffisait pas.
Donc, c'est-à-dire, c'est la carte de visite.
C'est la carte de visite.
Ce qu'a vraiment fait la personne.
Il faut être docteur, il faut être professeur. Il y avait le statutaire était important. Monsieur le directeur, monsieur le PhD, en Allemagne, Herr Docteur, machin, etc. Et puis les femmes fonctionnaient beaucoup plus par l'exemplarité. Mais quand on est dans le monde corporate, dans le monde des grandes entreprises, eh bien, le statutaire, l'exemplarité ne suffit pas parce qu'on est dans un jeu politique. On est dans un jeu politique dans lequel il faut avancer, dans lequel il faut manipuler, dans lequel il faut avancer ses différents pions. Et la femme est en plus dans l'exemplarité et plus performante fondamentalement. Parce que si on regarde les hommes de notre génération dans l'entreprise, ils sont plutôt monocordes, hein. Ils font un truc. Moi, dans toute ma carrière, 25 ans que j'ai monté ma boîte, j'ai souvent engagé des femmes parce qu'elles étaient capables de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est quelque chose qui évolue beaucoup maintenant avec cette nouvelle génération qui arrive, qui elle met l'exemplarité avant le statutaire, elle met réussir sa vie au lieu de réussir dans la vie, elle met la flexibilité et pas la rigidité. Et c'est une génération.
Donc là, vous parlez de ce qu'on appelle la génération Y, ou la génération
Z. Et si vraiment on veut la résumer, c'est la génération du comment et pas du pourquoi.
D'accord.
Et quand on assimile ça, quand notre génération assimile ça, eh ben ça va être un accélérateur, ça va être du confort pour nous et ça va être un accélérateur et ça va rééquilibrer beaucoup de choses.
Alexis Burger va nous parler du désert. Je pense que ce sera un joli moment dans votre premier rendez-vous, Patrick Delarive et Alexis Burger, puisque à mon avis, Patrick, vous allez être intéressé par le côté méditatif du désert, parce que je sais que vous êtes très intéressé par ce genre de choses. Et pour nous mettre dans l'ambiance du désert, Jean-Baptiste Roumain nous a choisi un groupe Touareg que je n'arrive pas à prononcer, j'essaye quand même. Riven sur la première.
De 14h à 15h, premier rendez-vous.
Tina Riven, donc, sur la première, pour nous emmener dans le désert, Alexis Burger. Racontez-nous ces voyages dans le désert. Donc, vous partiez à l'origine qu'avec des groupes d'hommes pour explorer notamment leur masculinité et vous traversez le désert. Et j'imagine que l'objet que vous avez amené a un lien direct avec le désert, ce que vous êtes en train de tripoter.
Exactement.
Là. Qu'est-ce que c'est?
Ce que je tripote, c'est des silex. Parce que dans le désert, il y a plein de choses en fait. On croit que c'est vide et tout, mais il y a plein de choses. Et suivant où, on trouve des silex. Alors, soit c'est des couteaux, des lames qui étaient fixées sur des pièces de bois, soit c'était des pointes de flèches ou différents outils. Et ça, c'était des lames en fait qu'on fixait sur des pièces de bois et qu'on utilisait pour.
Mais qui date de quelle période?
Alors ça date environ d'une dizaine de milliers d'années avant Jésus-Christ.
Et vous retrouvez ça dans le désert?
Et on en trouve beaucoup dans le désert parce que effectivement le désert n'était pas désert à cette époque-là. Il s'était très habité. Et puis comme le sable a tendance un peu à bouger quand même, il y a toujours des nouveaux endroits qui se dégagent avec ces silex, et quand on a l'œil, on en trouve passablement. Et j'aime beaucoup ça parce que ça me fait rêver. J'imagine qu'il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de couteaux suisses, mais qui se débrouillaient avec ça pour tanner leur peau et puis pour préparer tout ce qu'ils avaient à faire. Moi, ça me fait beaucoup rêver. À certains endroits, on trouve même les ateliers de taille de silex.
Ah oui?
Où on voit
ça ressemble à quoi?
Eh ben, simplement, on retrouve des pièces comme ça qui étaient des outils, mais on retrouve tous les éclats et on retrouve les bouts de pièces de silex qu'ils n'ont pas pu utiliser parce qu'ils ont sorti un maximum d'éclats utilisables. Après, ils ont jeté ce qui restait. Et c'est la concentration de ces pièces sur un endroit qui fait dire aux archéologues que c'est des ateliers de taille de silex.
Bon, revenons au psychiatre, maintenant qu'on a exploré la partie archéologique de votre CV. Le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait dans le désert avec ces hommes?
Il fait deux voyages. Il fait un voyage dans la géographie, d'où les silex, le sable, l'atmosphère du désert, qui est une atmosphère absolument unique, où on a une hypostimulation au niveau des idées, au niveau mental, mais une hyperstimulation au niveau des sens, parce qu'il fait froid, il fait chaud, il y a du vent, on sent très bien les odeurs, on voit très loin, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de pollution nocturne notamment, on voit les étoiles très très bien. Donc on fait vraiment un voyage dans une région de la planète qui est extraordinaire et qui de tout temps a été utilisée comme un lieu de retraite. Si on regarde dans toutes les traditions spirituelles, il y a des expériences dans le désert. Donc on fait un voyage dans ces zones-là et en même temps on fait un atelier de développement personnel qui est assez exigeant, c'est une 40 à 50 heures sur tout le voyage. On le fait tous les jours et on travaille, alors ça dépend les groupes bien entendu, mais dans les groupes d'hommes on travaille certainement sur la notion de la masculinité et on va chercher vraiment chez chacun.
Mais ça ressemble à quoi concrètement?
Ben, c'est, si vous voulez, ça ressemble à ce qu'on a fait un petit peu avant. C'est quoi pour vous le problème des hommes, etc. Donc on va commencer par comment on se sent comme homme. C'est quoi pour moi être un homme? C'est quoi les questions que j'ai? C'est quoi les difficultés que j'ai à être homme? Et c'est des difficultés relationnelles, c'est des difficultés d'identité parce que je sais pas très bien ce que je suis. Est-ce que c'est parce que en fait j'ai des émotions puis je sais pas quoi faire de mes émotions? Est-ce que
c'est le groupe des hommes anonymes en fait?
On peut venir avec n'importe quel objectif. C'est pas de la pédagogie, c'est vraiment de la thérapie. On peut venir avec n'importe quel objectif. Et les plus fréquents, c'est j'ai de la peine à m'affirmer. Je fais tout ce qu'il faut puis ça suffit pas. Ou bien alors il y a eu des ruptures de lien, j'arrive pas à voir mon fils, le vois plus, j'ai pas vu mon père était pas là. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à l'histoire personnelle de la personne, et puis il y a beaucoup de choses qui reviennent à ses ambitions frustrées ou ses envies. Et puis on va travailler ça. On va travailler ça de différentes façons, c'est souvent très émotionnel, ça fait sortir des choses extrêmement personnelles, donc on a besoin de créer une intimité très forte dans ces groupes. Elle se crée très rapidement, au bout de 2 ou 3 jours, on crée un contexte très protégé, avec des règles éthiques, avec des engagements de non-violence, des engagements de confidentialité, etc. Et on commence à se laisser aller. Et les hommes n'ont pas l'habitude de partager l'intimité, ils ont l'habitude de partager des actions, des idées, mais l'intimité, c'est pas tellement une habitude masculine. Et quand des hommes commencent à s'ouvrir à ce niveau-là, c'est extraordinaire généralement parce que c'est totalement nouveau. Et il se crée une atmosphère qui est perçue par la plupart des hommes comme « c'est la première fois que je vis ça ».« C'est la première fois que je vis ça ». Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a une dynamique qui se met en place très facilement, ça devient très joyeux. Et on travaille des choses très très pointues.
Tout ça entre 2 dunes au milieu du désert.
Voilà, mais il faut dire qu'on part 15 jours, ce qui n'est pas rien. On se trouve 11 jours dans le désert, perdu, avec notre caravane de chameaux, avec nos chameliers. Moi, j'ai tout mon matériel, je ne le fais pas tout seul. J'ai un ami qui organise tout, qui tient toute la logistique. Donc, je peux me concentrer sur l'animation création de ces groupes, c'est assez intense. Et comme il n'y a pas de distraction mentale, quand vous finissez la journée, sortez d'un atelier avec une émotion ou avec une prise de conscience, il n'y a rien pour vous distraire. Vous
ça,
allez rester avec ça pendant des
habituel.
Heures et
des,
ça change complètement. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas le net. On se distrait pas. Donc le lendemain, on va partir, on va marcher, et puis on va peut-être prendre un autre homme et dire tiens, t'as dit ça hier, moi j'ai dit ça, on en parle un peu, etc. Et il va se créer des choses. Le groupe va fonctionner comme une espèce de dynamique à changement.
Patrick Delarive, il suffit de regarder votre curriculum vitae pour se rendre compte qu'a priori, il y a une prise de conscience dans votre parcours. Il y a la gradation, monter en hiérarchie, lancer sa boîte, faire un maximum d'argent, gérer un maximum d'argent et un jour, essayer au contraire de revenir à l'essentiel. C'est juste, c'est ce chemin-là que vous avez suivi?
Oui, c'est mon chemin en tout cas. Il a évolué avec grâce à un travail de... sur plusieurs décennies de connaissances de moi-même en fait et progressivement j'ai réussi à aller chercher à trouver en moi ce qui me nourrissait et qui me remplissait au lieu comme je l'avais fait pendant des années auparavant d'aller chercher à l'extérieur par la possession de biens matériels, par la possession de par des objets voyants, par des objets de luxe, par une recherche de reconnaissance socio-professionnelle, d'apparaître dans les médias, d'avoir une grosse voiture bruyante, d'avoir une grosse montre, vraiment de me la péter quoi. Et donc j'allais chercher à l'extérieur, j'allais me nourrir à l'extérieur de ce que je n'avais pas à l'intérieur. Et en fait c'est un puits sans fond. Donc on s'épuise à toujours vouloir aller rechercher ce petit shoot de drogue qui aura de moins en moins d'effet. Et puis ça nous pousse loin, ça nous pousse à faire des conneries. Ça nous pousse.
Lesquelles par exemple? Qu'est-ce que vous avez fait comme conneries?
Ça pousse à faire des bêtises dans les rapports humains. Ça peut détruire un couple. Ça peut casser des relations avec des enfants, ça peut se lancer dans des... Moi, je me suis lancé dans certaines affaires, mais uniquement par un besoin de reconnaissance ou pour un coup d'éclat qui m'a nourri une microseconde et qui a été un boulet que j'ai traîné pendant des années avec des pertes de valeur, etc. Je vous parlais tout à l'heure de mes échecs, hein. Et beaucoup sont dus à ça. Donc aujourd'hui, je suis dans la dématérialisation.
Vous iriez jusque dans le désert, vu que vous allez dans la dématérialisation, dépouillement de soi-même. Je vais dans mon
désert à moi, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire
dans mon désert à moi, ce que j'appelle, c'est une fois par an, depuis, ça va être la quatrième fois cette année, dans une dizaine de jours, je pars pendant 15 jours, et sous contrôle médical, sous 15 jours, je fais 12 jours de jeûne complet. C'est-à-dire pendant 12 jours, je ne mange absolument rien, je bois que de l'eau et une cuillère à café de miel par jour.
Et vous faites ça où?
Et là, je fais ça dans une clinique, je l'ai fait en Espagne, là je le fais en Allemagne cette fois.
Okay.
Et en fait, c'est une expérience, c'est une rencontre avec soi-même. C'est la première question que vous me posiez tout à l'heure, ça aurait dû être ça la réponse. C'est une rencontre avec soi-même parce que lorsque le corps, lorsque l'estomac et les intestins sont vides, et qu'il n'y a plus de mastication, le cerveau identifie ça comme famine. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il met tout le corps au ralenti. Mmh. Et le corps va commencer à fonctionner en service minimum. Et quand le corps est équilibré en service minimum, il envoie des signaux au cerveau. Et à ce moment-là, c'est le cerveau qui se met en service minimum. Et là, on rentre dans une autre dimension où on est totalement, où on a 50% d'énergie en plus. On a 50% d'énergie physique en plus. On n'a pas faim. On est dans le moment présent. On est dans le conscient, donc on réfléchit, on pense, on peut écrire, on peut lire, il n'y a absolument aucun barrage à ça. Mais on est complètement déchargé de ces névroses liées au passé, de son stress lié au présent et des angoisses liées au futur. Et on vit quelque chose d'extraordinaire.
Beaucoup, ça me paraît.
Et là, on rentre dans une dimension fantastique. Et dès qu'on casse le jeûne, au bout de 10-12 jours, une dizaine de jours, quand on casse le jeûne, à la première bouchée, le cerveau est de nouveau complètement envahi par tout ce qu'on a mis de côté pendant cette période-là. Et quand je le fais, je pars...
Mais si vous avez dû aller jusque-là...
Je pars sans téléphone, sans ordinateur.
Je me déconnecte. Tout le monde n'a pas besoin d'aller s'enfermer 12 jours sans boire ni manger. Si vous êtes allé jusque-là, c'est parce que vos névroses étaient aussi à la taille de l'épreuve que vous affligez aujourd'hui.
Je suis comme je vous l'ai dit au début d'émission, je suis extrêmement curieux. Mmh. Et je pense que la machine merveilleuse qu'est le corps humain n'est pas due au hasard. Donc je vais explorer des choses, je vais dans des limites où qui sont des limites relatives, mais où beaucoup de gens n'osent pas aller. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disaient, moi, le jeune, j'ose pas, machin, etc.
C'est aussi une liberté qu'on a de faire des choses comme ça.
Oui, bien sûr.
Vous pourriez vous emmener vos groupes d'hommes dans une clinique pour jeûner pendant 15 jours.
Je les emmènerai pas dans une clinique puisque j'adore aller dans le désert, mais c'est du même ordre. C'est si on voulait un terme générique, on dirait on fait une retraite d'une certaine façon.
C'est ça.
C'est à travers le jeûne, c'est à travers la respiration. On parlait du rebirth avant. C'est à travers une marche dans le désert. C'est à travers le yoga. Ça peut être. Peu importe, on a tellement de choses à disposition. C'est pour ça que je disais, cette liberté qu'il y a actuellement, et notamment de chercher autour de son genre, autour de ce qu'on appelle la masculinité pour les hommes, c'est pas grave qu'on ait ces questionnements-là, parce qu'on a aussi la liberté d'aller chercher des réponses. Mmh. On a beaucoup la liberté d'aller chercher des réponses.
Patrick Delarive, Alexis Bourguer nous a amené des silex. Vous avez un objet un peu dans cet esprit-là, c'est juste
Oui, moi je vous ai amené un couteau suisse. Je vous ai amené un couteau suisse version de poche. J'en ai un beaucoup plus grand.
C'est le silex moderne.
C'est le silex moderne. Du reste, quand je voyais vos silex tout à l'heure, ils ressemblent du reste au couteau que j'ai là devant moi.
Mais pourquoi le couteau suisse? Pourquoi il est important pour vous?
Parce que je pense qu'il n'y a pas, je suis contre les problèmes, mais je suis pour les solutions. Quand des gens viennent vers moi en me disant j'ai un problème, je leur demande de tourner le dos, de repartir. Si c'est à mon bureau, c'est facile, je leur dis.
Sortez du bureau.
Vous n'êtes pas là pour des problèmes, vous êtes là pour des solutions. Venez, apportez-moi une solution. Et pour moi, le couteau suisse, c'est la représentation parfaite de solution qui a tout, en fait. Il y a pas de solution à la mort. Mais, Il y a des solutions partout.
Ben on essaiera ça au travail quand on nous appelle pour dire qu'il y a un problème. Revenez quand vous avez une solution. On verra si ça fonctionne aussi dans nos vies. Voici Le Temps Passe de Lady Sear. Dans un instant, Patrick Delarive, Alexis Bourguer. On verra si vous avez une bonne mémoire et que vous vous souvenez de tout ce que vous avez raconté dans la presse romande.
C'est comme si c'était hier. C'est à l'envers. Comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain. Comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait. L'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment. Comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera été. Et que la mécanique s'essoufflait. Passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini. Comme si la mémoire servait l'oubli. Comme si nos rêves souvenaient pas. Et que le réveil ne sonnait pas. Comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoie, et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite.
D'ici sur la première. Pour illustrer ce premier rendez-vous, encore quelques minutes avec le psychiatre Alexis Bourguer et l'homme d'affaires Patrick Delarive. On joue au qui a dit. Si vous le voulez bien, ce sont des phrases de vous dans la presse. Il faut que vous deviniez lequel des deux a dit quoi. Qui a dit, il faut que ce soit intense et tout de suite. C'est un de vous deux.
Ça, ça doit être moi.
Je pense. Oui.
Non, c'est Alexis Bourgueur qui a dit il faut que ce soit intense et tout de suite.
Mais ça parlait de quoi?
Vous parlez du mal de notre siècle, l'impatience, dans une interview de Migros Magazine en septembre 2012. Qu'est-ce que vous cherchez à dire par là? Il faut que ce soit intense et tout de suite.
Mais qu'on est dans une situation orale. On veut la satisfaction tout de suite, on veut le résultat tout de suite. Le fait de pouvoir différer et puis d'accepter une certaine frustration pour ensuite avoir mieux, c'est très mal accepté. Et c'est, pour moi, ça dénote un trouble en fait assez profond, qu'il y a souvent chez les hommes d'ailleurs maintenant, qui est qu'on ne sait pas quoi faire de notre agressivité. Et que l'agressivité, en principe, soit ça détruit, soit ça construit. Mmh. Et quand ça construit généralement par le fait que ça nous aide à surmonter justement des frustrations.
D'accord.
Par exemple, faire des études de médecine, prendre un exemple au hasard qui me concerne, pour arriver au bout de ces études de médecine, il fallait vraiment beaucoup d'agressivité et d'acharnement. Mais c'est la
donc
même chose
que dans ce sens-là que vous entendez l'agressivité.
Exactement.
Parce que naturellement, quand on parle d'être masculin, entre guillemets, on peut parler de cette agressivité-là.
Oui.
Et on se dit, mon Dieu, mais vous êtes une bande de tarés dans le désert, qu'allez travailler votre agressivité.
C'est ça. Et effectivement, on dit, vous êtes une bande de tarés, parce que les hommes, avec leur agressivité, ils ont fait beaucoup de dégâts. Toutes les guerres, c'est des histoires d'hommes. La destruction de la planète, c'est une histoire d'hommes. La violence domestique, 80%, c'est une histoire d'hommes. Les hommes sont très mal à l'aise avec leur agressivité. Il y a de quoi, il y a de quoi se poser des questions. On n'a pas envie de reprendre le modèle militaire, etc. Même que certains veulent, mais je ne crois pas que la majorité
donc
des
vous,
hommes
vous désirez
veulent ça.
Pas effacer cette agressivité.
Je crois qu'on peut pas l'effacer.
D'accord.
Je crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut, elle sera là. Donc prenons-la en compte. Et faisons-en quelque chose de bien. On peut en faire quelque chose de passionnant, on peut en faire quelque chose qui nous aide à surmonter, qui nous aide à nous exposer, qui nous aide justement à tenir dans la durée et à sortir du tout tout de suite.
C'est intéressant. Qui a dit « Je me sais capable de tout recommencer à zéro » ?
Ça, ça doit être Patrick.
Ouais, c'est moi.
C'est du Patrick de la Rive, ça.
Ouais.
Dans Le Temps, juillet 2015. Pourquoi vous disiez ça ? « Je me sens capable de tout recommencer à zéro ».
D'abord parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en 1900. J'ai monté ma première boîte en 1989. De 89 à 1993, ça a très bien été. Puis à un moment donné, il y a eu ces différentes séquences. Vous savez, on fait une erreur. L'erreur amène à une situation de crise. La crise amène à une épreuve. Et puis quand on réalise pas ça assez tôt, il y a l'échec. Et je me suis retrouvé fin 93 avec rien. Donc j'ai rendu la jolie maison que je louais. J'ai vendu ma Porsche, j'ai vendu la Jeep Cherokee de...
Pas de marque, Patrick. Les garages
non.
ne vous feront pas de réduction.
Et j'ai pris un appartement et j'ai pris une Twingo en leasing. J'ai
pas de marque, Patrick.
Non, ça n'existe plus. Et j'ai tout recommencé à zéro. Et je pense que même si c'est désagréable, même si personne le souhaite, c'est sortir de sa zone de confort. Ça amène vers d'autres horizons. Et puis...
Force-là, de recommencer à zéro, je vous coupe parce que je sais que vous voulez nous parler de quelque chose rapidement, et finalement, on fait le lien et c'est intéressant. Cette force-là, de recommencer à zéro, ça vous amène à ce que vous transmettez, notamment aujourd'hui à des plus jeunes, et c'est ce que vous appelez, vous, les juniors entrepreneurs.
Oui,
alors, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, parce que vous êtes deux très grands causeurs, mes chers amis.
Oui.
Mais vous avez le droit de nous en dire deux mots, c'est vrai que c'est intéressant.
Merci.
Qu'est-ce que c'est junior entrepreneur? En deux mots, c'est un vrai exercice pour Patrick Delarive. On vous applaudira à la fin, on vous écoute.
Le monde aujourd'hui a besoin qu'on se prenne en charge, qu'on prenne son destin en main pour ne pas le subir. Parce qu'il n'y a plus de croissance, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, et pour tout un tas de raisons, on ne peut plus s'appuyer sur les piliers traditionnels.
Qui sont
l'entreprise, l'État ou même la famille. Donc on doit prendre son destin en main. Donc on doit devenir entrepreneur de soi. Pour moi, d'être entrepreneur, j'ai toujours pensé que c'était un ADN. Ça ne l'est pas. On est entrepreneur de manière innée.
Oui.
À l'image d'un enfant qui va faire un château de sable. Et j'ai amené pour sauver la planète.
Oui.
j'ai amené ce concept dans les écoles.
Oui.
Et on travaille avec des centaines d'enfants dans différentes écoles sur une formule junior entrepreneur où on immerge les enfants de 12 à 15 ans dans un vrai projet entrepreneurial et on leur apprend en fait pas comme on le dit trop souvent ici, c'est rien n'est impossible mais on leur dit que tout est possible.
Très bien. Et ben c'était presque en deux mots. Bien joué.
On va dire la même chose aux hommes. Tout est possible et on peut changer avec du plaisir et avec de la passion.
C'était un plaisir de vous avoir, Alexis Bourgueret et Patrick Delarive. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. À une prochaine. rdv@rts.ch, c'est l'adresse email pour nous contacter. Merci à Mathias qui réalisait cette émission. On se retrouve demain à partir de 14h sur la première. Bel après-midi. Il est 15h.